irrévérencieuse, hein, parce que jusque dans le langage, jusque dans Charlie, etc. À propos justement de cette irrévérence, je vais vous montrer là. Quelqu'un qui est actuellement... Alors, l'autre jour, on avait vu un peu les grands classiques fondateurs. Aujourd'hui, je vais quand même vous montrer encore quelques-uns et quelques-unes, puisqu'on va voir aussi cette... Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait là ? Avant-garde russe. Pourquoi c'est là ? Attendez. BD. BD, BD, BD. Ah, ben là. Voilà, parce que j'ai deux, il y a un dossier dans lequel j'ai à peu près tout, puis il y a un dossier qui était juste pour aujourd'hui, etc. Donc on a vu Debrier, Pratt, je vous en ai parlé, Hugo Pratt.
Non.
Alors voilà, quelqu'un comme Hugo Pratt, c'est évidemment important, justement, comme créateur et dessinateur de bande dessinée, du point de vue du graphisme. Là je vous montre aussi les inventeurs de graphisme, qui sont très importants. Alors, Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, son héros c'est Corto Maltese, il ne sait pas le seul. Hein. Le voilà, effectivement, ce marin un peu solitaire, aventurier sans cause, hein, qui erre sur les mers, et c'est aussi un voyageur. De ce point de vue-là, c'est un point commun avec Tintin, c'est aussi des voyageurs qui parcourent le monde, qui sont aussi des héros comme Corto Maltese. Qui sont aussi des révélateurs, qui eux-mêmes finalement révèlent le monde dans lequel ils vont. Mais ce qui caractérise surtout Hugo Pratt au niveau de la narration et du graphisme, c'est qu'on est à l'opposé total de Hergé et de la ligne claire. De ce point de vue, la Corto Maltese invente un graphisme bien particulier que l'on peut voir, attendez, notamment là j'ai surtout eu des couvertures. Ah zut, j'ai eu du mal à voir les pages entières. Attendez, ça c'est pas des pages, c'est des carnets. Voilà. Et vous voyez ici, dans cette page-là, au contraire, c'est un travail essentiellement, c'est l'opposé de la ligne claire, c'est surtout ombre et lumière. Des masses d'ombre et des masses de lumière. C'est l'opposé de la ligne claire. En gros, alors d'ailleurs, il s'amuse, Hugo Pratt, c'est un virtuose de dessin de la lumière. Là, c'est une scène de nuit dans Venise, pour suggérer la nuit, ça se passe la nuit, ben, il n'y a pas d'ombre. En fait, il n'y a pas d'ombre, parce que l'ombre veut dire qu'il y a de la lumière. Si on est la nuit, il n'y a pas d'ombre. Donc, et en fait, les choses sont peu définies, parce qu'on voit juste certains contours qui se détachent. Si, d'ailleurs, ça c'est un pont, je crois que c'est près de l'actuelle collection de Guggenheim, etc. Et au-dessus, vous avez au contraire des scènes où les personnages sont révélés par des grandes masses d'ombre. Alors, très peu de dégradés et de modelés, mais on passe très vite de l'ombre à la lumière. Alors, la caractéristique de Pratt, justement, c'est que cette ombre et cette lumière font qu'on s'arrête devant chaque scène. Au lieu de circuler rapidement d'une case à l'autre, dans les bandes dessinées de Hugo Pratt, on s'arrête et il y a une certaine lenteur. Il y a du vide. Hein, il y a du vide, il y a des silences, y compris au niveau de la narration, parfois elle est flottante. Hein, il y a des ellipses, il y a beaucoup d'ellipses, etc. Il y a des non-dits, etc. Et il y a des personnages justement qui sont souvent un peu mutiques, qui parlent peu, qui ont un monde intérieur. Ce qui fait que la lecture de Pratt se fait à un rythme lent. Et d'ailleurs, le titre de sa première œuvre, La balade de la mer salée, c'est effectivement cette espèce de lenteur, hein, de l'errance, du navigateur, etc., qui a des aventures à parfois des accélérations, puis parfois des grands moments où il ne se passe pas grand-chose, des rencontres un peu étranges, qui sont rarement fixes et définies, comme son dessin. Et alors, c'est un dosage, alors c'est un très beau travail d'encre, hein, d'ancrage, hein, de contraste, etc. Et puis, c'est une espèce de héros qui... une sorte d'Arsène Lupin, ou de voyageurs comme ça. Alors, Pratt, c'est assez remarquable. Voilà la plupart de ces... ça, c'est les couvertures, hein, de la plupart de ses œuvres. Hein. Les plus connues, vous avez La balade de la mer salée, sous le signe Capricorne. Ensuite, vous avez les Celtiques, vous avez les Éthiopiques, Sibérie, Venise et Maison dorée de Saint-Marcande, hein, particulièrement. Les autres, Macumba du Gringo, etc. Mais c'est un graphisme très... qui le fait... c'est un des premiers aussi à casser un petit peu la bande dessinée pour enfants, parce que même s'il a commencé pour enfants, c'est quelque chose très vite qui s'adresse, qui a une version très littéraire, y compris de la narration. C'est pas une aventure avec des coups de feu partout, des poursuites, etc. C'est beaucoup plus lent, donc c'est une lecture d'adulte essentiellement, bon, de jeune, mais qui demande une certaine maturité, et on n'est pas dans le spectaculaire. Et c'est une virtuosité discrète aussi. Parce que ça, les enfants, ça ne les intéresse pas trop souvent, parce qu'on ne reconnaît pas bien les images, c'est pas identifiable, etc. L'espèce de décomposition aussi des figures est très moderne, comme du point de vue du graphisme. Et puis le personnage, comme ça, un peu étrange. Et puis le côté très historique. Souvent, on va plonger dans des réalités très complexes. La guerre civile russe, les situations, les complots à Venise avec les sectes, avec les moines, etc. C'est très difficile à comprendre. Les bons et les méchants sont plus complexes. Ils rencontrent des philosophes, même comme Steiner, le fondateur des écoles Steiner. Ils rencontrent Rasputin, ils rencontrent Jack London. Donc c'est beaucoup de clins d'œil aussi à des adultes. Donc là, avec Hugo Pratt, notamment avec Corto Maltese, plus des histoires amoureuses. Donc des vrais anciens de Corto Maltese, c'est un séducteur, il y a l'histoire d'amour avec un certain nombre de femmes de par le monde, etc. Juste pour la petite histoire, le dessinateur de carnet de voyage et marin lui aussi, Tito Alamazou, s'est inspiré directement de Corto Maltese. Il dit, moi, mes carnets, j'ai voyagé pour faire des carnets de voyage comme le Corto Maltese de Hugo Pratt. D'ailleurs, on voit bien au niveau du style un petit peu le... Il y a un côté carnet de voyage, effectivement, chez Corto Maltese, où, comme si... On avait effectivement une sorte de description comme ça d'un monde qui serait une sorte de reliquat, hein, dans le XXe siècle, une reliquat d'une certaine poésie, mais qui est en train de disparaître. Corto Maltese, il y a ça aussi. C'est cette idée aussi de la navigation et des lieux qui échapperaient un petit peu à la modernité. Venise, la Sibérie, etc. Donc c'est vraiment aussi cette idée d'être un petit peu un chemin de traverse. Ça, c'est très clair chez Corto Maltese. D'où ils sont pris son graphisme, la cohérence avec son graphisme. Bon, ça, c'est juste des prises de notes. Assez drôle, d'ailleurs, parce que Hugo Pratt, là, c'est plus du tout de la bande dessinée. D'ailleurs, de sa bande dessinée, va aller vers le carnet de voyage, comme si c'était les vrais faux carnets de voyage de Corto Maltese, le héros, hein, fait par Hugo Pratt, où tout d'un coup, il y a fusion aussi entre l'auteur et son héros. Un peu comme Hergé Tintin, Hugo Pratt, Corto Maltese, très souvent, on fait la confusion. Hein, y compris, même la confusion, elle est là, parce qu'on a l'impression que c'est un carnet de voyage, mais on ne sait plus qui le fait. Est-ce que c'est Pratt, est-ce que c'est Corto Maltese, qui donne vraiment vie à son héros. Et là encore, hein, qui sont des carnets de voyage, comme des carnets de voyage, quasiment plus ou moins inventés. Alors Pratt va vraiment voyager, donc là aussi vous avez une fusion intéressante. Donc le Hugo Pratt, alors, ils sont réédités souvent, vous avez une très belle collection, vous pouvez les acheter, les offrir, j'ai aucun intérêt, mais c'est... et les lire si ce n'est pas déjà fait. Donc, mais c'est un graphisme vraiment particulier. Alors, quelqu'un d'autre qui a un graphisme très intéressant, lui aussi poétique, original, et qui s'écarte, on va dire, de la ligne claire, c'est dans la description précise, c'est Fred, F-R-E-D, avec les aventures de Philémon. Là, par exemple, on voit une pleine page qui est très intéressante, qui reprend un petit peu les principes de Winsor McCay au niveau du passage d'une case à l'autre, de la constitution d'une case totale, avec le fond bleu, le nuage, la séquence, la narration, etc. Le zoom, vous avez énormément d'éléments de... Parce qu'on voit le Philémon, et ici, celui qu'il s'appelle Vendredi, merde, son... l'espèce de voyageur ici, et il est sur la lettre, hein, on les voit comme zoomés. Vous avez les séquences, les collages, les montages, la scène globale, le gros plan, le premier plan, les contre-plongées, les plongées. C'est quelque chose de très intéressant au niveau du montage, on va dire, cinématographique, du jeu avec la planche. Le graphisme est très gestuel. Si on voit que les contours chez Fred sont très... comme par exemple ici, hein. À chaque fois, les contours même des figures sur la mer... Sur les côtés sont plus des contours qui évoquent la plume ou le pinceau, c'est quelque chose d'assez gestuel, presque calligraphique, avec des épaisseurs, une gestualité assez proche, d'ailleurs, parfois dans les coups de pinceau, regardez dans la mer, et les ombres, qui sont aussi originaux, qui sont ni lignes claires, ni modelées, hein, une qualité graphique remarquable, qui évoque presque parfois même les gravures sur bois ou de linogravure. Et là, Fred, de ce point de vue-là aussi, c'est un graphiste remarquable, hein, et à chaque fois, un travail de planche, plus... La dimension poétique aussi, où il casse la narration de case en case, qui serait une narration linéaire, de bande, et pour rentrer dans une narration plus poétique, avec des retours en arrière, des reculs, des passages, etc. Donc Fred est carrément dans une tradition presque surréaliste de la bande dessinée, de la narration. En ce sens-là, c'est aussi un très grand graphiste, très grand artiste. Alors, par exemple, ce que je voulais, vous, dans les bandes dessinées de Fred, alors, il s'appelle Aristides Otton Frédéric Wilfrid, son vrai nom. D'ailleurs, Gottlieb se moque souvent de lui, souvent on le présente, c'est lui toujours le coupable dans les enquêtes du commissaire Bouvier de Charolles. C'est toujours Fred avec ses grosses moustaches, donc c'est un personnage réel qui est devenu lui aussi un personnage de bande dessinée dans l'équipe de Pilote. Tout ça, c'était dans le journal Pilote, hein. Et Fred a souvent fait des choses qui étaient en fait carrément inspirées de Max Ernst, des collages, c'est en intégrant des vieilles gravures récupérées dans des vieux magazines, qu'il détourne et qu'il intègre dans certaines de ses bandes dessinées, comme par exemple celle-ci. Avec donc, les jeux sur donc, deux graphismes qui se rencontrent, deux réalités, deux époques. Alors le passage d'un monde à l'autre, c'est aussi typique de Freud, puisque son héros Philémon va effectivement passer dans un monde double où il y a deux soleils, en général en utilisant des lieux de passage étonnants, c'est les lettres de l'océan Atlantique. Si vous regardez une carte, ben, vous avez marqué les lettres océan Atlantique, et il imagine que ces lettres sont une réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, le signifiant devient, etc., signifié, prend une réalité, etc. Les lettres ont une réalité, c'est une réalité physique et géographique, et donc on peut vivre, et ces lettres existent réellement dans un océan Atlantique, d'un autre monde, et on peut passer de l'un à l'autre. Donc vous avez aussi le côté du rêve, le côté aussi chemin de traverse, toute une poésie qui s'exprime très bien, avec un héros aussi un petit peu naïf, encore une sorte qui est avec son âne Anatole. Quelque chose de très beau. Alors, ça a été, il est mort, ça fait pas longtemps, hein, Fred, voilà 2 ans, je crois. Voilà les lettres de l'océan Atlantique. Un coup, il atterrit sur une lettre qui va être une île, etc. Alors, c'est aussi, il y a beaucoup de jeux de mots. Alors, justement, il est dans les deux lunes. Il y a le vaisseau de théâtre avec les critiques aquatiques qui sont là, qui se rassemblent comme des requins pour faire la critique de la pièce de théâtre qui est un vaisseau théâtre avec en plus les rideaux et les voiles. Il y a beaucoup d'idées et ça, parfois. Dans ces bandes dessinées aussi, vous avez des pleines pages. C'est-à-dire des vraies compositions qui tiennent, c'est-à-dire qui ne sont plus uniquement des vignettes, mais qui deviennent des pleines pages totales, avec aussi une grande poésie, un travail coloré, irrationnel, qui est inspiré par les Gauguin, etc. Donc, ça vient de ressortir l'intégrale de Fred et Philémon est ressortie, je crois, en 3-4 tomes, un peu plus petit que les albums d'origine, mais très intéressant. Et alors là, regardez son travail de hachure, et il combine plusieurs choses, à la fois les contours, les hachures, le modelé, l'ombre, les couleurs. C'est vraiment, de ce point de vue-là, un graphiste remarquable. Là encore, un très drôle. Le chien. Et ça, on l'a vu. Les Manu Manu, qui sont une de ses inventions remarquables, qui sont ses mains et les dompteurs de Manu Manu. Mais regardez le geste graphique, hein, le trait. On travaille sur l'épaisseur, remarquable, dynamique. C'est aussi travaillé, c'est épais et fin, donc ça décrit à la fois le contour, mais aussi l'ombre et la lumière, la hachure, une certaine virtuosité, quelque chose qui en fait un. Alors, juste une chose, c'est quand même tous ces dessinateurs de bande dessinée du XXe siècle, d'abord il y a une quantité incroyable, c'est un véritable univers, on parle du 8e ou 9e art, je ne sais plus, mais c'est un univers dans lequel il y a énormément de créateurs et de créatrices. Et qui revient un petit peu à ce que vous vous souvenez, j'avais une passion que j'ai toujours pour les manuscrits qu'on est en train de découvrir, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, la grande peinture, etc., les beaux-arts, l'art majeur, etc. Mais vous avez en sous-main tout cet univers de créateurs, du graphisme, du dessin, de l'illustration qui est vraiment effectivement extrêmement dense. Actuellement, il se retrouve beaucoup dans la bande dessinée. Juste une chose aussi, tout ce qui est graphisme là. Peut-être que je vais faire un chapitre si j'ai le temps de trouver des documents sur la question de l'affiche. Et par exemple, l'affiche graphique n'existe plus quasiment depuis les années 60. Hein, depuis les années 60 en Europe, toutes les affiches, que ce soit cinéma, publicité, sont devenues des affiches de photographie retouchées. Et vous n'avez plus du tout de graphisme dans ni la publicité, ni le cinéma. Presque toutes les affiches de cinéma sont des photos retouchées qui se ressemblent presque toutes, etc. Et la pub, c'est pareil. C'est une pauvreté incroyable, c'est que la photo, le piège à l'illusion, a viré complètement de tout cet univers de création de l'affiche, beaucoup de créateurs et de graphistes, hein, et c'est un appauvrissement de ce point de vue-là. C'est terriblement pauvre. L'imagerie publicitaire depuis les années 70 est terrible, hein, de pauvreté, alors que tous des graphistes auraient pu. Mais c'était trop sensible, peut-être pas assez réducteur. Et dans une société de consommation de masse, les affiches sont vraiment aussi une réduction du message terrible. Donc là, il y a un appauvrissement très clair de certains univers qui étaient riches. Donc voilà un petit peu. Alors Freud, alors voilà ce que je vous dis aussi sur le jeu, différents graphismes de Freud, où il confronte son graphisme, on va dire, très sensible, poétique, avec des illustrations plus officielles, de revues, de dictionnaires, de magazines, qui étaient des graphismes beaucoup plus descriptifs. Et il fait un très beau jeu de confrontation dans beaucoup de ses œuvres. Bon, alors là, je ne vais pas vous les montrer tous. Le piano à queue, qui est le dompteur de piano à queue, alors ça aussi c'est poétique, hein. C'est le pianiste est comme un toréador, le piano noir comme ça devient un taureau, il faut le dompter, mais cette fois-ci c'est en jouant de la musique, et le piano se fâche, là aussi quelque chose de très, très intéressant chez Freud. Donc, à découvrir et à redécouvrir. Alors je ne vous les montre pas tous, j'essaie de vous montrer ceux qui ont un graphisme particulier aussi. Alors quelqu'un qui est très intéressant au niveau du graphisme, et qui lui aussi est novateur, parce qu'il va aborder l'érotisme de manière très claire, c'est Pichard. Pichard avec Paulette ou Blanche Epiphanie. Paulette, alors, si vous regardez derrière les scénarios, le Wolinski est hélas décédé et assassiné. Mais Paulette, alors, au départ, on pouvait penser que c'était une bande dessinée sexiste, etc. Mais alors, pas du tout. Il se trouve que Paulette est une héroïne très peu sensuelle, etc. Mais qui se laisse jamais faire, et qu'au contraire, que ce soit Paulette ou Blanche Epiphanie, qui est aussi une des héroïnes. Ah ben parce qu'elle est... il y a des nazis qui essayent de l'attraper, il y a des miliciens fascistes derrière, etc. Donc c'est une héroïne. C'est une héroïne positive qui évoque... alors, pour Pichard et Wolinski, c'est vraiment la vie. La résistance à la connerie, à la brutalité, au fascisme, etc. va être incarnée la plupart du temps par cette espèce d'héroïne. Femme, sensuelle, sensible, vivante, poète, courageuse, etc., qui justement rit un peu et toujours au nez, à la barbe des forces de mort. Quoi. Ça, c'est assez typique, c'est que derrière l'humour de Wolinski et Pichard, vous avez quelque chose qui est assez... mais qui est traduit par un graphisme assez remarquable, lui aussi qui combine une sorte d'imagerie, on va dire, un petit peu ancienne, comme les vies, les cadres ou les gravures de 1900, avec une héroïne moderne. Alors, Paulette, on la voit ici, hein, aux prises avec le sexisme, le machisme de base, hein, ici, fille seule, fille mère, etc., jeune travailleuse, femme au foyer, etc., battue, séduite ou séduisante, etc. Et le mariage de Paulette, donc, c'est aussi des bandes dessinées. Alors voilà, Paulette ou Blanche Epiphanie. Alors cet érotisme, c'est évidemment... dans l'arrivée de la bande dessinée, c'est quelque chose qui était totalement absent, puisque la bande dessinée d'origine était quand même essentiellement pour la jeunesse, pour les enfants. Au début, c'était quand même des revues, même comme Tintin, ou moins Spirou, mais surtout Tintin quand même, et puis même Mickey, Picsou, etc. C'était bien pensant, puis c'était très contrôlé. Les premiers utilisés sur la bande dessinée, par exemple, La Semaine de Suzette, Cœur Vaillant, c'était aussi beaucoup les catholiques, hein, le petit 20e, pour s'occuper de la jeunesse, il fallait donner quelque chose à voir à la jeunesse, et donc édifiant. Et donc progressivement, ça évolue, on a vu, vers l'humour, la sociologie, la liberté de ton, etc. Et ça va arriver quand la bande dessinée s'émancipe dans les années 70, une bande dessinée pour jeunes et pour adultes, avec y compris l'irruption de... l'érotisme dans les années 70, de manière très claire, comme dans le cinéma, comme dans la vie, une certaine libération. Même, alors, Pichard va même revoir les thèmes de l'Antiquité, et il va revoir Ulysse et les mythes grecs, et avec donc tout l'érotisme de l'Odyssée et puis des mythes grecs. Donc vous avez toute une bande dessinée de Pichard qui est sur la mythologie grecque, voilà, Ulysse d'ailleurs. Juste une chose, c'est un travail graphique remarquable, hein. C'est-à-dire que les travaux de modeler, de volume, alors on n'est plus du tout dans la séquence de narration rapide, la fluidité, au contraire, hein, on est dans une sorte presque d'art déco, la voix Ulysse justement et Calypso, hein, avec l'éclatement des cases, des vagues, le côté un petit peu psychédélique, hein, on est aussi dans les années 70, évidemment, distorsion, diffusion, flottement, etc., et érotisme, sensualité, etc., c'est très clair de ça. Ah, ça, c'est pas lui, ça. Alors, Barbarella... Alors, la Blanche Epiphanie, c'est un peu l'équivalent de Paulette, avec les méchants, et toujours un air apparemment innocent, mais elle n'est pas du tout bête, au contraire, elle est très, très forte, et se bat, et voilà encore Paulette, avec une sorte de caricature, y compris des hommes et des méchants. Bon, quand on connaît l'univers de Volinsky, hein, c'est à peu près ça, sauf que c'est marrant comment Pichard a cette espèce de qualité de dégradé, de hachure, qui est, et en même temps de ligne, hein, les lignes courbes, qui se combinent avec des volumes remarquables. La plupart du temps, il reprend presque la tradition des graveurs. Hein. Si vous regardez et que l'on zoome, la qualité par exemple, de gris optique qu'il y a chez Pichard, hein, obtenu par Hachure, là aussi c'est quelque chose qui est notable et qui en a fait son style. Hein, parce que, et là, vous savez que c'est un héritage aussi des graveurs, parce que le gris, on ne l'obtient que par un gris optique, c'est parce que des hachures ou des petits points, etc. Et là, alors qu'il pourrait très bien utiliser des lavis, de l'encre, etc., ou de l'aquarelle, mais ces gris restent avec cette espèce de rigueur, comme ça, la qualité des noirs, des blancs, des gris, plus maîtrise des espaces de la perspective, de l'anatomie, de l'art animalier, etc. Et puis, ce côté intéressant hein, chez Pichard, c'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il reprend les mythes grecs, entre une certaine tradition et quelque chose de très moderne. Tradition au niveau du dessin, un dessin virtuose, classique, mais revu par une mode psychédélique. Et là encore, une tradition mythologique, mais revue avec une sorte de modernisation, y compris du langage, hein, sur Pégase, sur, comment il s'appelle, tiens tes fringues, tout ça, à Pégase, etc. Et donc c'est assez drôle. Donc, la liberté aussi au niveau du langage, un mélange aussi des genres, même dans le langage. Ralbolville. Et puis vous voyez aussi le jeu sur les. Et si on zoome certains détails, morceaux de bravoure, la qualité graphique, hein, et l'homogénéité, c'est qu'en même temps, une grande homogénéité des traits, des lignes. Donc Pichard, quelqu'un de ce point de vue-là aussi très intéressant. Et totalement différent. Ce qui est remarquable, toujours, rappelez-vous, c'est ce que je vous disais, que la plupart de ces artistes, ce ne sont pas des écoles, genre le style Pichard contre le style Gottlieb, contre le style. Tout ça, c'est ensemble. C'est l'idée que le graphisme, justement, il n'y a pas d'isme dans le graphisme et dans la bande dessinée. Ce qui compte aussi, c'est la liberté d'expression d'un individu par un graphiste, une manière de dessiner. Ils peuvent être extrêmement différents et pourtant se retrouver dans la même revue. Pilote, ou plus tard Fluide Glacial, ou À Suivre, etc., qui vont être des revues de bandes dessinées très très vivantes dans les années 70, etc. Alors, un autre qui est un des maîtres du graphisme, c'est Moebius Giraud, hein, puisqu'il a deux, il a une sorte de double vie. C'est à la fois l'auteur de Blueberry, enfin le dessinateur de Blueberry. Pas le premier dessinateur de Blueberry, cette espèce de tunique bleue maudite, le rebelle permanent, etc., qui est le seul héros de bande dessinée à vieillir d'album en album. Tintin ne vieillit pas, Spirou ne vieillit pas, Fantasio non plus, etc. Blutch et le sergent Chesterfield non plus ne vieillissent pas dans les tuniques bleues. Alors que Blueberry, c'est une véritable biographie, c'est-à-dire qu'il commence jeune, il finit âgé, presque à la retraite, il est déclassé, il est viré de l'armée, etc. Donc vous avez ici, c'est le premier euro aussi qui devient sale, qui ne se rase pas, etc. Vous avez là encore une modernisation. Mais, et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, Blueberry, les premiers Blueberry sont, j'aurais dû mettre dans l'ordre. Les premiers Blueberry sont assez sages. Ils sont encore là, comme celui-ci. Bon, non, je ne vois pas, c'est déjà là. Les premiers Blueberry, c'est encore une histoire de cow-boy, un peu classique. Et on est dans les années fin 60. Et au fur et à mesure que Blueberry avance, on arrive dans les années 70. Et Giraud, le dessinateur, fait non seulement évoluer son personnage, mais fait évoluer aussi son style, qui devient de plus en plus, d'abord, virtuose, mais un peu, il se libère des codes et des conventions. Et Blueberry vieillit, s'émancipe, sort de l'univers un petit peu enfant, d'histoire de cow-boy, devient une véritable western, comme le western a évolué dans ces années-là, eh bien Blueberry évolue complètement. C'est une des bandes dessinées qui évolue incroyablement, du début à la fin, jusque dans le style, qui devient de plus en plus virtuose, expérimental, etc. Et Giraud, donc le dessinateur de Blueberry, évolue tellement qu'il finit lui aussi par se dédoubler. Et il prend un autre pseudonyme pour faire d'autres histoires sous un autre nom. Hein, il s'appelle Moebius. Ben voilà, regardez d'ailleurs Blueberry, comment il évolue. Hein. Alors, il s'est inspiré de Belmondo, hein, comme tête. Donc, Blueberry jeune et Blueberry, effectivement, rebelle, Blueberry tondu, exclu, etc. Blueberry, donc, vous avez ce héros qui évolue. On voit aussi, il introduit des éléments, justement, d'ombre et de lumière, de modeler, etc. Donc, on va dire une bande dessinée réaliste. Mais, dans sa version, et Moebius a une double personnalité, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire Blueberry avec une histoire de cow-boy, etc., qui évolue, mais dans le cadre quand même de la bande dessinée traditionnelle. Et à côté, il va inventer quelques héros, Major Fatal, Jerry Cornelius, etc., Lincoln Noir, etc., qui vont être des univers de fiction pure, hein, de science-fiction extraordinaire, dans lesquels il donne libre cours à un graphisme, alors là, d'une qualité incroyable, très très épuré, très peu d'ombre par des taches d'encre, etc., au contraire, tout à la plume et à l'encre, etc., hein, au trait, avec une qualité des volumes, des postures, de l'architecture, de l'art animalier, etc., qui sont d'une précision, d'une justesse prodigieuse, avec des angles de vue très poétiques. Là, on est dans quelque chose de totalement onirique. Et, par exemple, ces univers, il va inspirer directement, d'ailleurs, alors, ça va avoir beaucoup de succès, hein, cette histoire un petit peu incroyable de science-fiction, et ça inspire très directement Star Wars. C'est-à-dire qu'une bonne partie des personnages de Star Wars, il s'en est pas caché d'ailleurs, de s'inspirer aussi de Moebius, et y compris de Valérian et Laureline, de Christian et Mézières, etc. C'est-à-dire que la bande dessinée franco-belge a été de ce point de vue-là remarquable. Et d'ailleurs, ça c'est un autoportrait, il se représente, il est vieux là. Alors il est mort, c'est pas longtemps, hein. Ce qui est drôle, c'est qu'il a évolué lui-même vers un mysticisme assez étrange, hein, un petit peu symboliste, New Age, etc. Ça, c'est pour Blueberry. Et voilà, c'est certaines de ces planches extraordinaires, hein, où là, il y a une qualité de trait prodigieuse jusqu'au petit point. Par exemple, ça, c'est ce qui va le caractériser aussi, c'est les modelés, hein, donnés par ces petits points graphiques, vous voyez ici. Je voulais la hachure, mais c'est aussi jusqu'au petit point qui donne cette petite notation de volume, tout en délicatesse, avec une dominante quand même du blanc, et une précision. Alors là, son génie, c'est la précision du trait. Très très régulier, et absolument parfait. Donc aussi un grand anatomiste, etc. Et puis cet univers... Alors voilà, alors tout ça, c'est-à-dire du flottement, aérien, onirique, funambule, du rêve, science-fiction, tout ce qui vole, tout ce qui flotte. D'ailleurs, on le voit... Tout à l'heure, le personnage sur l'oie, c'est une référence à Nils Holgersson, etc. Hein, donc, toutes ces idées-là, même l'incal, c'est une sorte de ptérodactyle qui vole tout le temps, aussi cette idée du flottement. Alors, d'ailleurs, il y a un retour, hein, c'est que Moebius va être celui qui va réadapter Little Nemo de Winsor McKay avec Miyazaki. Hein, donc, parce qu'il y a un clin d'œil aussi. Et Miyazaki, c'est aussi quelqu'un dans ses dessins animés qui fait très souvent référence à l'aviation, tout ce qui est aérien, les nuages, le château dans le ciel, le Porco Rosso, etc. C'est toujours Kiki la petite sorcière qui vole, qui flotte, etc. Ou même le dernier, le vent se lève, c'est l'histoire de l'aviation. Donc cette idée aussi aérienne, comme là encore on est dans un monde un petit peu à part aussi du rêve et de l'enfance et d'un monde qui décolle quelque part dans un ailleurs. Ça c'est quelque chose aussi, hein, dans ce 9e art, c'est quelque chose aussi qui a des constantes. Hein. Alors là, même dans son travail d'ombre et de lumière, hein, c'est intéressant comment il est un maître de l'ombre et de la lumière par grande masse et par grande tache d'encre dans Blueberry, et quand il transpose son sens de la lumière avec des impressions de surexposition ou des graphismes comme ça, c'est assez remarquable. Hein, parce que là, les ombres projetées, les ombres propres, les reflets, les épaisseurs de traits et les dosages par petits points de gris optique, c'est assez remarquable. Regardez ici aussi derrière, parce que vous avez le jeu entre les lignes, on ne sait pas si c'est tapisserie ou si c'est gris, hein, donc c'est des motifs décoratifs, mais aussi des ombres. Moebius, alors il est considéré, je ne sais pas si vous savez, mais il est considéré presque par tous les amateurs de bande dessinée comme le maître du graphisme et du dessin, parce qu'il a maîtrisé à peu près tous les genres, tous les styles, mais c'est aussi intéressant ce dédoublement qui montre bien la richesse au point que cet artiste a cette espèce de double vue, le nom d'ailleurs qu'il prend, Moebius, fait référence à la bande de Moebius, hein, que vous connaissez, c'est une bande infinie, qui a deux faces mais qui n'en sont qu'une. Donc Moebius, c'est aussi ça. Pour lui, c'est... Vous connaissez le système, il y a des stratégies ici. Moebius, il a fait exprès de faire référence à Moebius, puisque c'est deux identités. D'ailleurs, il y a même trois identités, parce qu'il y a Giro, gyre et moebius. Vous avez parfois voulu gyre, c'est quand il est un peu dans la tradition narrative de la bande dessinée, mais un peu plus pour adultes. Et moebius, c'est quand il est vraiment... Juste une chose, il a eu comme scénariste aussi Alejandro Jodorowsky, qui vient de sortir un film que j'ai pas vu, mais il paraît qu'il est fantastique. Cet auteur un peu surréaliste, chilien, c'est un petit peu... qui n'est pas tout jeune, etc., mais qui a été aussi, qui est un peu un mystique aussi, antifasciste, mystique, et qui a beaucoup travaillé avec Moebius. Donc, si vous voulez, vous avez aussi des rencontres, on va dire. La bande dessinée, souvent un art mineur, considéré comme un art mineur, mais avec des arts majeurs. Alors, juste une chose aussi, toute bête, hein, pourquoi la bande dessinée est souvent considérée comme un art mineur? Parce que c'est un petit objet. C'est des petits papiers, c'est imprimé, c'est des multiples, on est rarement face aux originaux. Il faut savoir qu'en bande dessinée, les originaux sont toujours deux voire trois fois plus grands que les planches que vous avez. Les artistes de bande dessinée travaillent beaucoup plus grand, d'où d'ailleurs le saisissement qu'on a dans la précision, parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup plus grand. Une planche de bande dessinée, elle est toujours au moins presque format raisin, ou à trois minimum. Hein. Et ce qu'on voit aussi souvent quand on voit les originaux, c'est que c'est découpé, collé, il y a des retouches, même chez Hergé. On va couper une bulle, il va la recoller, il va remettre du blanco, du papier blanc, il va refaire. Ça ne se voit pas à l'imprimerie, donc vous avez aussi le principe d'imprimerie qui nous éloigne un petit peu de la réalité physique du dessin et du graphisme. Mais quand on revoit les graphismes, même les Gottlieb, la plume, etc., il y a quelque chose là, tout d'un coup, Mais c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, une bonne partie des expositions de bandes dessinées représentent des originaux, parce que tout d'un coup, on voit le vrai travail manuel. Ça, c'est toujours... Alors ça, c'est quand Giraud et Moebius se font un petit peu dans certaines planches décoratives ou certaines grandes visions western qu'on va trouver dans les derniers Blueberry, on a l'impression là que Giraud et Moebius, les deux auteurs, finissent par fusionner un petit peu. Ça, c'est encore... Donc voilà, juste une chose, là, vous avez à voir dans Valérian Lorline qui sortent bientôt avec les cinéastes français, Luc Besson, ses grandes perspectives, etc., c'est totalement inspiré des visions de Mézières et aussi de Giraud, c'est une ville futuriste, etc. Alors le thème, évidemment, est porté par les années 70, les Trente Glorieuses, toute explosion technique et technologique, comment résister dans ce monde, etc. Alors Moebius, très intéressant. Alors, la première femme reconnue, qui s'impose et qui est une génie du graphisme et de la sociologie et de l'humour, c'est la catastrophique Claire Bettecher. Je dis catastrophique parce que c'est d'une acuité incroyable. Et Claire Bettecher, donc, dans les années, elle commence à faire des petites bandes dessinées dans Pif et dans Pilote, avec les Molgaga, etc. Je pense que c'est l'histoire de petits enfants. En plus, Cellulite, la fille, une petite princesse complètement rebelle avec un père débile, et c'est lui qui veut vivre sa vie. Et on a souvent dit que la bande dessinée, c'est vrai, est un univers extrêmement machiste, parce qu'à l'origine, c'est un petit peu les mecs qui dessinent bien leur petit coin, un petit peu, c'est les geeks. Pendant longtemps, les dessinateurs de bande dessinée, c'est les geeks complets. Quoi. Ils sont à leur table, ils sortent pas, parce que c'est un travail très long, tu vois, une bande dessinée. Il faut être replié sur son monde, il faut plonger dedans, et pendant longtemps, c'est vraiment vu comme... les mecs un petit peu glands qui sont dans leur coin à faire leur petit Mickey, et puis Gottlieb s'en manque, et puis tout à coup ils épatent tout le monde finalement, parce que dans leur coin ils ont l'air de rien, mais finalement leurs bandes dessinées sont assez remarquables, etc. Et très souvent en plus, voilà, c'était un milieu très fermé aux femmes. Bretécher réussit à arriver là. Elle est reconnue par Goscinny dans Pilote. Goscinny, c'est quelqu'un qui avait un flair incroyable, et il a vu dans le trait et la liberté de Bretécher quelque chose d'extraordinaire. Et c'est donc une femme qui a réussi à s'imposer tout le temps et qui a fini par faire une sorte de chronique quasiment de la France du XXe siècle, de la deuxième moitié des années 60, 70, 80, 90, etc., avec des thèmes comme les mères, la médecine, les docteurs ventouses, bobologues, par rapport à la médecine, la maternité, donc des choses aussi, des points de vue d'une femme sur la maternité, sur la médecine, les frustrés, c'est déjà dans les années 80, c'est les bobos. Attendez, je vous les montrer. Qu'est-ce qu'ils sont les frustrés? Bobodex. Ah voilà, les frustrés, c'est déjà la gauche caviar, un petit peu. Voilà. Et avec leurs préoccupations d'anciens rebelles, d'anciens 68ards, mais un peu intégrés dans les milieux parisiens. Et c'est très, très, très drôle qu'ils passent leur temps à discuter. Donc, vous avez toujours des canapés. Ça ne sort jamais du canapé. Par contre, ça parle, ça parle, ça parle, etc. Et avec un style de caricature qui est... pourquoi j'ai pas le zoom ici ? C'est assez remarquable. Alors, les psychanalystes et les médecins... Alors, le docteur Ventouse, qui est très, très drôle. Il y a aussi quelque chose sur lequel elle va être assez extraordinaire, c'est Agrippine. Agrippine, que vous avez lu, qui est l'ado qu'on connaît tous, soit comme parent, soit comme frère, soeur, cousin ou enseignant. Et alors Agrippine prend ma part, là où elle travaille aussi le langage de façon extraordinaire. Il y a une économie de moyens, quasiment jamais de décor, que des personnages en situation, des dialogues, c'est une dialoguiste prodigieuse, qu'un langage pas possible. Avec des expressions très comme face de Lot, par exemple. Les noms et les prénoms qu'elle invente sont prodigieux, donc c'est aussi une artiste du langage. C'est une observatrice hors pair, et son dessin et sa bande dessinée sont d'une fluidité prodigieuse, y compris par exemple les costumes. Les costumes, alors là, si vous regardez Agrippine, il y avait un catalogue, mais de toutes les tenues vestimentaires. Donc, si ça n'existait pas, ça manquerait. C'est-à-dire que vous avez là une chroniqueuse absolument prodigieuse. Des postures, des modes, du langage. J'ai failli avoir la moyenne en mal. Ça, c'est Agrippine. Et ça a déjà plus de 20 ans. Hein. Avec les yeux exorbités. Ah oui, le langage aussi, alors là. Comment il s'appelle, Moufrit, arrête de tortiller. Ah, attendez, comment il s'appelle, j'ai oublié un petit peu. Elle a des noms tellement incroyables que. Bref, donc Agrippine, si vous avez Agrippine. Alors Brett est cher, alors elle a tenu, non seulement elle a tenu la route, mais. Agrippine et la secte à Raymond. Voilà. Alors les rapports avec son frère, sa mère, c'est les familles recomposées, la grand-mère branchée, etc. C'est très très drôle, très très cruel, très juste, et virtuose. Parce qu'elle, alors elle a réussi à s'imposer tout le temps. Hein. Elle a été très dans le Nouvel Observateur, ensuite elle est sortie du milieu juste pour enfants pour aller dans les magazines et les revues, etc. Et donc elle a une reconnaissance remarquable. Elle a aussi une pratique de peintre, hein, qu'elle a exposé peu. Et donc voilà, je crois qu'il y a une rétrospective à Claire Bredécher récemment, hein, d'avoir à peu près maintenant à s'approcher 80 ans, pas loin, soit peut-être que tu l'as vieilli un peu, mais c'est vraiment la première femme qui réussit à s'imposer. Et non seulement ça, c'est qu'elle a été aussi à l'origine d'une des premières revues pour adultes, avec Gottlieb et avec Mandrika. C'est elle qui a fondé L'Écho des Savanes. C'était pas pour trahir Goscinny et Pilote, mais pour avoir une revue qui soit plus pour jeunes adultes, adolescents ou adultes, etc. Tout d'un coup, on pouvait aborder des questions comme la sexualité, l'humour, la politique, la sociologie, sans être un peu contraint par une sorte de cahier des charges qui tenait encore Pilote pour être quand même un magazine pour enfants, pour jeunes. Et donc, vous avez avec Grete Scher a été une de celles qui a créé aussi cette espèce de mouvement d'un art graphique qui sortirait de son enclos un petit peu. Donc là encore, assez remarquable, très remarquable. Alors, d'autres femmes artistes de bande dessinée, il y en a peu, mais il y en a. Comme on dirait, il y en a, hein, comme dans l'alcool, etc. Alors, il y a notamment, je vais vous le présenter là, rapidement, parce que, il y a Brett Escher. Vous avez Florence Sestac, qui, elle, se caractérise notamment, alors elle a fait un travail pour enfants, mais aussi là récemment, une sorte d'autobiographie de jeune femme artiste, comment c'était difficile dans les années 70 d'être reconnue et acceptée comme jeune femme et artiste. Hein. Et ces personnages sont souvent représentés comme ça, avec un gros nez, un peu caricaturaux. Elle a sans doute influencé Charb, d'ailleurs, au niveau de son caricaturé de la déformation. C'est quelqu'un qui, on va dire à peu près nos âges, en gros. Hein. Donc, Florence Sestac, avec les déblocs, ici. Et un point de vue aussi intéressant, parce que souvent, l'espèce de machisme de base, ou un petit peu classique de la bande dessinée, est revu de manière plus critique et assez drôle sur l'univers. Autre chose, les héroïnes de bande dessinée étaient souvent des espèces d'héroïnes, on a vu, stéréotypes, vraiment un stéréotype féminin, ou totalement absentes. Par exemple, chez Astérix pendant des années, chez Tintin, ça on voit tout le temps, chez Spirou Fantasio, il y a ses cotines qui arrivent, etc., puis plus tard, Mademoiselle Jeanne, mais la représentation des femmes dans la tradition bande dessinée, ou alors ça devient des héroïnes érotiques, comme chez Manara, comme chez Tichard, etc. Tichard, c'est un peu plus subtil, mais vous avez donc des stéréotypes complets au niveau de la représentation des femmes. Des gens comme Bretécher, Sestak, on va voir Clavelou, et puis Götzinger, comme par exemple ici, revoit complètement de l'intérieur, on va dire, le rapport à la séduction, les habits, la féminité, les stéréotypes, la réalité de la vie, etc. Bretécher aussi voit toutes les générations, de la petite fille à la grand-mère, la mère, la fille, etc. C'est un vécu remarquable. Alors, Annie Götzinger est quelqu'un de très intéressant, parce que c'est une bande dessinée, c'est un graphisme très classique, mais très élégant. Hein. C'est quelqu'un aussi, là, qui est totalement différent. Götzinger, c'est écrit au-dessus, là, attendez. G-E-T-Z-I-N-G-E-R. Götzinger, Annie Götzinger. C'est la même génération. Hein. Elle a pas mal travaillé avec Christin. Christin qui a travaillé lui aussi Valérie Orlin et avec aussi Enki Bilal. Donc Christin, c'est un très grand scénariste qui a travaillé pas mal de dessins. Ah, ça aussi, c'est intéressant, la bande dessinée, c'est le rapport scénariste-graphisme. Annie Götzinger il fait aussi des sortes de biographies, hein, biographies souvent de femmes, dont voilà, plusieurs de ses œuvres, mais avec un graphisme plus classique. La voyageuse de la petite... La demoiselle de la Légion d'honneur. Très bon. Voilà, Pierre Christin, d'ailleurs. Hein, très souvent. C'est d'une grande qualité, au niveau de la narration. Et c'est presque... Alors, ça se lit assez lentement, parce que justement, chaque vignette, on va dire, on n'est pas dans l'espèce de fluidité qu'on peut être. Il y a une sorte de pause, le soin, la perspective, les modelés, les dégradés, le côté aquarellé, fait une sorte de petite... comme des petits tableaux. Quelque chose de très intéressant chez Annie Götzinger. Voilà encore, hein. C'est toujours elle. Alors on n'est pas très loin. Là, regardez le style. Alors ça, c'est vrai que beaucoup d'artistes, d'ailleurs, de bande dessinée, vont maintenir une tradition héritée de l'Art Nouveau, hein, parce que c'est l'Art Nouveau qui a un style très graphique, très dessiné, très linéaire, de composition, de vignettes. C'est pour ça, d'ailleurs, quelqu'un comme Winsor Mackay, qui naît en plein milieu de l'Art Nouveau, finalement, il transpose des valeurs de l'Art Nouveau dans le graphisme de la bande dessinée, et donc quelque part ça circule toujours, hein, cette idée de la page, les arabesques, le graphisme, les costumes et la ligne, etc. Il y a des choses qu'on trouve dans les vitraux.
Mais les originaux de ces bandes-là, elles peuvent être considérées comme des œuvres d'art.
Ah ben maintenant de plus en plus d'ailleurs, c'est qu'il commence à y avoir un marché des originaux, essayer d'acheter une planche d'Hergé. Alors, Hergé, évidemment, mais même une bonne partie de ces... Alors, c'est un paradoxe, parce que... Enfin, un paradoxe. À l'origine, normalement, les planches sont faites pour disparaître. Souvent, les dessinateurs eux-mêmes les gardaient pas forcément. Ils les amenaient au journal, qui les amenaient à l'imprimerie, qui les photocomposaient, qui les décomposaient pour avoir la quadrichromie noir et blanc, bleu, jaune, rouge, pour ensuite être réimprimés, etc. Ce qui fait que, très souvent, je crois qu'il y a plein d'originaux qui ont été perdus par les auteurs eux-mêmes. Parce que pour eux, bah, c'était un travail comme un manuscrit qu'on va envoyer au journal, puis qui va être tapé et imprimé. Par la suite, le succès de la bande dessinée, plus certains qui se sont vus effectivement comme de vrais artistes reconnus avec des vrais styles, ont fini par garder précieusement leurs originaux. Et certains ont commencé à les collectionner, et ils commençaient à avoir un marché des originaux de bande dessinée de manière assez claire. Alors évidemment, c'est souvent relatif à la notoriété de l'objet bande dessinée. C'est-à-dire que si la bande dessinée a eu un succès comme bande dessinée, les originaux vont avoir de l'importance. C'est assez drôle d'ailleurs ce rapport, parce qu'en même temps il y a l'histoire, il y a la narration, qui est une chose, et puis il y aurait cette espèce de genèse comme ça, plus manuelle, artisanale, qui elle aussi a de l'importance. Et il y a un qui est multipliable, réimprimable, etc., mais qui a un succès, on va dire, sociétal, puis il y a un autre qui a un succès plus de qualité purement artistique. Donc c'est assez drôle le décalage entre les deux. Bon après c'est presque comme Par contre, c'est plus vrai que sur des manuscrits. Bon, la manuscrit de Flaubert, c'est intéressant, mais bon, comme document, témoignage. Tandis qu'une planche originale de dessinateur, ça a plus d'autonomie qu'un manuscrit écrit, parce que le dessin, la peinture, les techniques sont plus variées. Donc c'est un rapport intéressant. Et alors maintenant, il y a de la spéculation, et certains valent très très cher. Alors ça, c'est toujours un milieu de similaire. Elle aussi qui a une virtuosité, un grand classicisme remarquable dans son travail. Nicole Clavelou, qui elle est plus dans une tradition, on va dire, un peu surréaliste, plus proche de Freud. Clavelou, C-L-A-V-E-L-O-X. Clavelou. Alors celle-ci, c'est sur le prince charmant. Hein, donc, un très beau travail de noir, de blanc, de couleur, onirique. Hein, côté humoristique et en même temps un peu inquiétant. Avec une dimension réaliste, mais enfin surréaliste au sens strict, figurative, et puis enfin, on glisse vers un côté poétique par les couleurs, par les ombres et la lumière. Nicole Clavelou. Donc voilà un autre exemple. Hein, c'est toujours le prince charmant. Donc là aussi, elle revisite avec une caricature, y compris du machisme, une phallocratie ambiante, associée y compris à la religion, au pouvoir, à l'arme nucléaire, etc. C'est vraiment quelque chose. Alors c'est traduit en anglais, parce que ça a été quand même... Il y a eu un certain succès de toute cette bande dessinée franco-belge. Je crois que Clavelou a travaillé aussi dans la revue Métal Hurlant, qui a été aussi une revue un peu remarquable de science-fiction, qui avait tellement de succès de toutes les BD de science-fiction. On est avec Valérian Leroline, Druyer, Moebius, et puis beaucoup d'autres encore. Clavelou, donc Métal Hurlant, c'est une revue de science-fiction qui a énormément influencé donc, tout le cinéma et beaucoup de séries, même de science-fiction et de films, dans les années 70. Donc, Métal Hurlant, c'est quelque chose, c'est aussi une des... Alors c'est assez marrant justement de voir dans cette année-là, la bande dessinée se spécialise. Enfin, il y a des niches, hein, il y a les grandes bandes dessinées pour enfants, pour jeunesse. Vous avez des choses comme Flux Glacial, qui va être plus pour adultes, hein, ou l'écho des savanes, avec l'humour décalé, l'érotisme, la transgression. Vous allez avoir Métal Hurlant sur la science-fiction. Vous allez avoir À Suivre, qui va être une revue aussi remarquable, dans laquelle vous allez avoir Corto Maltese, avoir des choses comme ça, qui vont être très, très bien, d'une bande dessinée de romans graphiques très intéressante, aussi un très beau succès. Et ces revues-là, on va voir, les années 70, 80, 90, ça commence à finir, mais énormément de succès et d'impact, y compris traduites. Hein, beaucoup vont être traduites. Et Métal Hurlant, par exemple. Rejoindre parfois certains auteurs italiens vont revenir, Manara, Prat, par exemple, etc. Donc voilà, Clavelou, Götzinger. Alors je les ai mis ensemble parce qu'elles sont quand même moins connues et montrées, mais il y en a peu encore de femmes dans la bande dessinée. Alors, je fais la transition avec une autre femme très connue, que vous avez tous connue, et qui est remarquable. Alors on saute un petit peu. C'est Marjane Satrapi, hein, vous connaissez tous et toutes, là vous avez vu cette bande dessinée absolument prodigieuse qui s'appelle Persepolis, qui a été transposée par elle en cinéma d'animation. Et alors là aussi, elle a imposé ce qu'on appelle le roman graphique. Alors là, il y a eu un saut, une autobiographie en bande dessinée avec une qualité graphique apparemment simple, mais remarquable de noir et blanc, à la fois le dessin simple. Alors là, elle a retrouvé la fluidité de la narration totale, tout en intégrant des très très beaux noirs et blancs, hein, des ambiances d'ombre et de lumière remarquables. De temps en temps, ce qu'on pourrait appeler des morceaux de bravoure, des planches qui deviennent très sophistiquées, puis on retombe dans une petite narration plus fluide. Et en plus, elle portait, alors cette fois-ci, elle était un souffle incroyable, parce qu'elle arrivait d'Iran directement, hein, à 10 ans, et elle raconte sa vie comme jeune iranienne au moment de la chute du Shah et l'arrivée de Khomeini, vu comme une libération, puis qui se transforme effectivement en une nouvelle dictature, et son arrivée en Europe, en Allemagne, en Autriche, etc., le décalage hallucinant entre ce qu'elle avait pu vivre, ses illusions, son adolescence, la découverte de sa féminité, des autres, de l'Occident, d'autres valeurs, donc c'est d'une densité prodigieuse, et c'est apparemment simple, et en fait, plus on plonge, plus c'est puissant. Et y compris avec ce que j'appelle déjà des morceaux de bravoure, comme ça, des planches entières. Chose aussi extraordinaire, c'est peut-être la seule qui ait réussi à transposer aussi fidèlement un univers de bande dessinée à une animation. Très souvent, ça ne marche pas bien. Le génie de la découpe et de la séquence d'un dessinateur va être très mal adapté à la fluidité du cinéma, et y compris quelqu'un qui est remarquable dans le mouvement, la finesse du mouvement et des lumières, aura beaucoup de mal à synthétiser, à découper. Par exemple, Miyazaki, les bandes dessinées tirées de Miyazaki ne sont pas terribles. Y compris les animations faites à partir de Astérix ou de Tintin ou de Spirou, etc., ou de Lucky Luke ne sont pas très bonnes. Alors que chaque vignette doit vraiment être pleine de tension, et là elles sont amollies par. Y compris, il n'y a plus la qualité graphique, souvent, nervosité du trait dans une image fixe. Hein. Elle a réussi, c'est aussi parce qu'elle a vraiment supervisé. Et aussi, il y a une chose qui est assez drôle, c'est que Marjane Satrapi, elle dit qu'elle est. Elle s'est servie de la bande dessinée parce qu'elle avait vraiment quelque chose à dire. Et en fait, elle n'est pas accrochée de manière viscérale à son style graphique, qui était un style au début vraiment de nécessité d'expression. Et donc, elle a pu très facilement se transposer au cinéma, puisque le cinéma, finalement, est devenu aussi un langage, l'animation est devenue un langage propre. Donc, elle n'a pas du tout essayé de mettre en animation sa bande dessinée, mais elle a essayé de l'exprimer avec le langage propre de l'animation. Et cette espèce de détachement qu'elle a par rapport aux outils qu'elle utilisait fait qu'elle est restée aussi une très bonne cinéaste d'animation. Son graphisme très efficace aura un sens. On voit la narration des plans, du découpage, des vignettes, etc.
Si je puis me permettre, oui, elle a utilisé le graphisme qui existait dans les livres scolaires iraniens.
Ah bon, en plus.
Ce graphisme noir et blanc, c'était les livres scolaires élémentaires que nous avons eus, qu'elle a eus.
Ah bah d'accord, oui. Ah bah alors.
Donc en plus, elle utilise le graphisme du chat pour dire du mal.
Ah oui, donc c'est un détournement léger, elle se réapproprie quelque chose.
Voilà.
D'où son espèce de. D'où cette de modestie qu'elle a en exprimant. Ah oui, ouais, bah ça je ne savais pas, ça. Mais, donc ça c'est.
Tout est,
mais alors là, on voit bien justement comment est-ce que. Alors, Marjane Satrapi, de ce point de vue-là, c'est une que je cite souvent dans les trois grands auteurs de romans graphiques qui ont prouvé que la bande dessinée, tout d'un coup, trouvait ses lettres de noblesse ou, en étant pas uniquement un truc de distraction, onirique ou d'amusement, pour retrouver des faits majeurs de l'histoire du XXe siècle. Par exemple, cette histoire incroyable justement de l'Iran, qui est encore même au cœur de nos sociétés, avec un pays avec une tradition prodigieuse, une puissance, enfin bref, un héritage incroyable, et peut-être au cœur hein, de la modernité, de nos soucis actuels, eh bien, elle est capable de presque tout dire, hein, quand on lit Satrapi, on comprend presque tout, y compris sur ce qui se passe maintenant. Vous avez aussi, mais ça je vous en ai déjà parlé, hein, donc voilà, Spiegelman, voilà, évidemment, Spiegelman avec Maus, et ça je vous l'ai montré quand il y a eu les attentats de Charlie, Spiegelman avec Maus, qui lui, un tout petit peu avant Marjane Satrapi, mais qui parle de la déportation des camps de concentration de façon... alors je pense que vous connaissez tous ça, sinon vous avez la chance de le découvrir, qui est aussi incroyable, qui lui aussi vient de dessins d'enfants. C'est lui, Art Spiegelman, je ne sais pas si vous connaissez, vous étiez nos enfants peut-être, ou des petits-enfants, qui utilise les crados. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, oui. Ces images dégueulasses de mort. C'était Spiegelman qui dessinait les crados. Oui, oui, oui. C'est Spiegelman qui dessinait les crados, vraiment un truc pour gosse, mais voilà, bien fait, mais dégueulasse. Et Spiegelman, qui était un graphiste, etc., s'est dit, pour une raison complexe, etc., son père a fini par lui raconter, il a voulu que son père lui raconte sa déportation, son père et sa mère. Ils sont connus en camp de concentration, etc., juifs déportés, etc. Et Spiegelman donc, raconte une histoire avec plusieurs entrées, où on le voit ici, c'est autobiographie, Spiegelman est ici et fait parler son père. Son père qui ne veut pas trop lui parler, donc c'est toute l'idée de tirer le fil, et son père finit par lui raconter la déportation. Et Spiegelman, d'un graphisme, on va dire un petit peu banal, va rentrer effectivement dans l'illustration, l'expression de l'horreur, avec effectivement, on passe, vous voyez ici, deux scènes, lui et son père, et tout d'un coup, son père qui lui raconte quelque chose, où les Juifs et les déportés, les Juifs sont représentés comme des souris, les Polonais souvent des cochons, et les nazis comme des chats, tigres, etc., des prédateurs, etc. Donc il reprend un petit peu l'anthropomorphisme de fable, y compris de La ferme des animaux de Orwell, ou Disney, ou La Fontaine, hein, qui est assez classique, y compris simplifié de cette manière-là. Et Emmaüs devient effectivement alors, un succès mondial, hein, où justement... alors pourquoi aussi ? C'est qu'en fait, l'irreprésentable, on ne peut pas représenter de manière réaliste chagrin, la pitié, des choses comme ça, ou nuit et brouillard, c'est que d'abord on n'a pas d'image directe souvent des horreurs, quand on en a c'est insupportable, souvent elles sont quand même en noir et blanc, etc. Et que faire du voyeurisme, l'exhibition, le respect pour les victimes, comme disait Godard, on doit aussi un respect aux victimes, parfois de ne pas les voir, un moment humilié. Et donc la bande dessinée, tout d'un coup, introduit une distance, permet la narration, c'est-à-dire permet qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que grâce au texte, justement, on permet qu'il n'y ait pas trop de polysémie à l'image, et c'est pour ça que le graphisme de la bande dessinée, c'est intéressant, parce que la polysémie de l'image, c'est-à-dire une image sans texte, sans parole, on a vu, elle peut être interprétée, etc., ou mal comprise, ou il peut y avoir des interprétations. La bande dessinée permet d'introduire le texte et donc d'être sûr que le texte et le sens soient bien compris. Donc vous avez à la fois toute la force du dessin et en même temps, on s'assure avec le texte qu'il n'y aura pas de mauvaise compréhension de ce qui est montré. Hein. Et de ce point de vue-là, on se rapproche de la stèle, hein, de la mémoire, et de tout l'art mémoriel. Et Maus de Spiegelman, Marjane Satrapi, comme par exemple ici, vous avez justement une incendie, une concentration, et quand on rentre dedans, en plus raconté par un contemporain, le fils qui fait parler son père, qui raconte l'histoire, etc., il y a une sorte aussi de transmission, hein, qui est absolument puissante et remarquable. Et la simplicité du dessin retrouve, alors là, de la même manière, je ne sais pas, Satrapi reprend un graphisme traditionnel, quelque part il y a aussi les gravures, aussi les gravures allemandes, hein, les bois gravés, les expressionnistes, espèce de côté un peu efficace, la puissance des graphistes allemands d'avant la guerre, pas les nazis, etc. Et là, par exemple, les gens nus qui courent, etc., qui sont battus, une véritable photographie, ça serait insupportable, un film, c'est à peine soutenable. Par la bande dessinée, ça permet de rentrer quand même dans l'horreur à une distance juste de mémoire, et Spiegelman, donc, est prodigieux. Alors, il y a deux tomes, hein, qu'on peut lire en anglais ou en français. Et puis l'autre, qui est proche, d'une certaine manière également, parce que quelque part, lui aussi détourne un langage traditionnel, c'est Seiji Nagasawa, un japonais, et Seiji Nakasawa. Alors attendez, je vais vous montrer celui-ci, parce que... Attendez. Gen d'Hiroshima. Ça, je crois que vous en avez parlé. Cartoon Story of Hiroshima. Et... Moi, je vous raconter ça. Quand j'avais vu ce livre dans une brocante, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries de manga encore sur la violence? Ah, tu es en train de Hiroshima, comment est-ce qu'il peut faire un manga là-dessus? J'achète par curiosité. Quand j'ai commencé à lire, les bras m'en sont tombés. C'est d'une violence et d'une puissance prodigieuse. Parce que d'abord, c'est une histoire vraie. C'est que Seiji Nagasawa est un rescapé. En fait, c'est lui, hein, Gen. C'est son histoire. Survécu à la bombe, il a vu son père, son frère, etc., brûler sous la maison en feu, etc. Il a perdu ses cheveux à cause des radiations, etc. Sa mère est devenue folle, donc il raconte tout ça, c'est absolument prodigieux. En même temps, il survit dans les décombres d'Hiroshima, il raconte tout ça. Le premier tome, c'est juste avant la bombe, c'est l'été avant la bombe. Et c'est d'une. Et il reprend la bande dessinée japonaise totalement classique. Il prend un style totalement banal, hein, même un petit peu désagréable, un peu moche, il y a des côtés un peu laids. Carrément, les standards, etc., qu'on voyait les têtes, et puis d'un coup, dans cet espèce d'univers naïf, enfantin, surgit la bombe, et voilà, et tout d'un coup, l'univers bascule, alors il reste avec cet espèce de graphisme simple, mais pour exprimer une des pires horreurs. Ce qui fait que vous avez la bande dessinée, par des romans graphiques, peut traiter les pires choses, les éléments majeurs, les camps de concentration, Hiroshima, la folie islamiste et la folie aussi de la dictature du Shah d'Iran, et puis les humanistes qui essaient de résister dans ces mondes-là. Et à chaque fois, c'est quasiment autobiographique aussi, puisqu'à chaque fois, c'est un roman graphique. Donc tout d'un coup, vous avez la force des images, leur simplicité aussi, fait que tout d'un coup, le graphisme ici prend toutes ses lettres, et tout d'un coup, la bande dessinée et ce graphisme-là s'imposent dans notre monde. Alors, souvent, ce sont des livres qui sont petits, hein. C'est ce qu'on appelle les romans graphiques, ce n'est pas des grandes planches. que ce soit Jen d'Hiroshima, que ce soit Maos, que ce soit Satrapi et Persepolis, ce sont des volumes noirs et blancs, donc ils ne cherchent pas non plus à séduire de manière artificielle. On est proche aussi du langage et de l'écriture, puisque c'est du noir et blanc, et ça permet là aussi de montrer les choses qui sont insoutenables, comme par exemple ici les irradiés, etc., etc. Les incendies, l'amour. Et en plus, au niveau graphique, c'est-à-dire que ce qui apparaît au début simple devient d'une intelligence, d'une puissance, vous regardez le mouvement, les cadrages, la composition, les éclairs, bon, la lumière, etc., c'est d'une invention incroyable. Et de ce point de vue-là, c'est un des meilleurs graphistes japonais de manga, etc. Et là, voilà, justement, sa mère devient folle, et qui donne naissance à une petite fille, pendant la débâcle, quelques jours après, on voit les silhouettes ici qui passent irradiées avec la peau en lambeaux et en même temps la naissance de sa petite soeur. Juste une chose, il y a quand même 12 tomes, hein, c'est une histoire qui va jusque dans les années 60, hein, c'est Gina Gazon, il va raconter son histoire y compris de paria, en tant que rescapé d'Hiroshima, paria dans la société japonaise, puisque dangereux, irradié, etc., rejeté partout, c'est horrible, hein, est obligé de négocier dans les bas-fonds avec les mafias, etc., parce que sinon ils ne peuvent pas survivre, donc la voyoucratie, enfin, c'est prodigieux, hein, c'est vraiment les bas-fonds, et c'est parfois très très douloureux. Là aussi, il y a une émotion très forte, hein, et c'est remarquable. Donc, et là, voilà, la scène où justement, son père et sa sœur et son petit frère sont écrasés sous le toit, etc. Chose, la mort, hein, alors justement, je parlais de, il y avait des tabous, l'érotisme et la mort. L'érotisme et la mort. Et vous avez donc avec Nakasawa, avec Satrapi et avec Spiegelman, vous avez cette fois-ci la mort, les catastrophes, etc., qui sont représentées par la bande dessinée. Est-ce qu'il y aura des bandes dessinées sur les massacres du Rwanda et tout ce qu'il y a, enfin, il y aurait d'autres. Je ne sais pas, tu dirais-tu que ça montre, là vous voyez, hein, ces doubles pages.
Il y en a déjà.
Peut-être, je ne connais peut-être pas là.
Ouais, ouais. Je crois que c'est Démogracias.
Ah oui. Peut-être, oui. Et voilà Eugène qui perd ses cheveux à cause des radiations, etc. Ah, mais c'est l'heure, d'accord. Donc voilà. Bon, alors on les trouve maintenant, Eugène d'Hiroshima, ça a été traduit. Hein. Pendant longtemps, ce n'était pas traduit en français, sans doute à cause du lobby nucléaire sur les codes des ICA. Je ne plaisante pas. Hein. On les trouvait à Amsterdam, on les trouvait en Italie, on les trouvait en Angleterre. On les trouvait traduits, tous les tomes. Et en France, rien. Il a fallu attendre, voilà quoi, 5-10 ans pour que ça soit traduit en français. Et je vous avais raconté ça moi-même, j'avais tout traduit de l'anglais. J'avais eu même Tardy était prêt à faire une préface. Et juste quand j'étais prêt à le faire éditer, boum, c'est sorti chez Albin Michel, mais mal traduit, sans préface. C'est quasiment le jour où j'ai... Et il a fallu... Et en plus, et après ça a été abandonné, et ça a été repris presque 40 ans. Et maintenant, vous les avez dans les médiathèques, Gene d'Hiroshima, c'est... Mais dans les années 90, critiquer le nucléaire, c'est pas bien. Hein. Donc on se voit la semaine prochaine.
On se voit la semaine prochaine. Ouais.